BFM, il est minuit. Beurre FM, la rediff.
Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS pour À Votre Santé, bonjour et bienvenue. Nous allons parler d'équilibre ce matin avec mes invités, le docteur Bernadette de Gasquet, qui est là. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous avez un profil comme on les aime, hein. Des études d'économie et de Sciences Po dans un premier temps que vous faites. Vous découvrez le yoga à 24 ans. Et à 38 ans, alors que vous avez 3 enfants, vous décidez d'entamer des études de médecine.
Eh oui.
Voilà. Diplôme que vous obtenez à 46 ans. Mm-hmm. Hein, qu'est-ce qui vous a fait sortir de l'autoroute?
Eh bien, c'est parce que pour la maternité, j'étais pas dans les clous. Ce que je ressentais, ce que j'avais vécu, était pas du tout conforme à ce qu'on fait faire d'habitude. Mais j'avais pas de légitimité, donc voilà.
Donc vous vous êtes dit, je me crée une légitimité, et je vais devenir docteur pour qu'on m'écoute.
Voilà, un peu ça.
Bon. Votre thèse sur l'incontinence due à l'accouchement a reçu le prix de la Fondation de France, il faut le savoir. Donc oui. Voilà, quand vous faites les choses, vous les faites bien, vous.
Effectivement, oui, bon. C'était intéressant.
Et vous avez commencé par déranger quand même un petit peu.
Ah ben oui, parce que j'étais vraiment à contre-courant, y compris donc sur d'autres choses, les abdominaux par exemple. J'ai dénoncé les crunchs, voilà. Et puis je suis devenue un petit peu le périnée, quoi.
Voilà, vous êtes considérée comme la spécialiste française du périnée.
Voilà.
Féminin. Parce que les hommes aussi ont un périnée, mais longtemps les hommes ont cru qu'il n'y avait pas de périnée.
C'est ça. Donc, en tout cas, ils ont moins de problèmes.
Mais vous êtes en tout cas la spécialiste française du périnée féminin. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un livre qui s'appelle « Le livre de l'équilibre aux éditions du Rocher » que vous avez coécrit avec Pascal Floriac. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour Bernadette et Philippe.
Je ne sais pas si vous avez un parcours aussi atypique que celui de Bernadette. Hein. Vous êtes coach et réparateur sportif. Vous travaillez également auprès des personnes âgées qui souffrent de maladies dégénératives. Voilà. Mais je suis sûr que vous devez avoir un parcours un petit peu atypique pour travailler avec Bernadette.
Oui, il faut.
Oui. Nous sommes reconnus aussi par ces qualités-là, effectivement.
Ouais, c'est souvent c'est le cas. Hein, quand les atypiques ou les, voilà, se reconnaissent, ils savent bien qui ils sont. Vous avez été l'élève de Bernadette et c'est vous qui avez apporté ce sujet de l'équilibre à Bernadette de Gasquet. Puisqu'on va le voir ce matin, l'équilibre, ça s'entraîne. Et vous avez justement construit un livre d'entraînement avec des exercices à faire dans un ordre précis. On verra ça ce matin. L'équilibre et la perte de l'équilibre, c'est un problème encore mal connu en France, Pascal.
Alors, effectivement, de manière officielle, effectivement, ça reste un domaine peu travaillé par par quelques spécialistes. Par contre, moi, je m'y suis intéressé très très longuement et depuis plus d'une vingtaine d'années.
Vous intéressez à la fois aux sportifs de haut niveau et aux personnes âgées, en fait.
Alors oui, j'ai un parcours un peu atypique, effectivement, pour reprendre simplement la base de présentation. C'est que je m'adresse aussi bien sur des gens que je vais préparer que des gens que je vais réparer ou réadapter. Donc dans ce sens, effectivement, j'ai une vision comme Bernadette, qui est une vision plutôt holistique, une vision éducative et surtout axée sur une pensée de prévention, en particulier donc en ce qui concerne le sens de l'équilibre et de la proprioception, puisque en France c'est un peu un domaine laissé pour compte.
Les chutes sont la première cause de mortalité, écrivez-vous, chez les plus de 65 ans en France. Et chaque année, 76 000 personnes se fracturent le col du fémur. Donc voilà, c'est pas anodin. Et ça laisse des séquelles et des problèmes de vie au quotidien qui sont très compliqués à gérer par la suite. Donc c'est pour ça que, justement, quand vous parlez de prévention, la prévention d'équilibre, c'est important.
Oui, j'interviens juste pour dire que effectivement, en France... équilibre, on va dire, oui, chute, col du fémur, voilà, on va voir le côté,
senior,
la pathologie,
senior,
elle est là,
ouais.
c'est tout cassé, ouais. Quoi. Alors qu'effectivement, il y aurait à faire beaucoup plus tôt, éducatif, et aussi par rapport à des performances sportives, en fait.
Oui, on parle des seniors, hein, mais il n'y a pas que les seniors hein, qui sont concernés par les chutes. Il y a aussi les gens qui se prennent les pieds dans le tapis à chaque fois.
Oui, il y en a qui sont spécialistes de ça, oui. C'est même dans leur gène. Hein, la proprioception, c'est quelque chose qui manque à certaines personnes.
On va expliquer ce que c'est que la proprioception. Alors, c'est un sens qui est inné, ça, Bernadette ?
Ah ben, on a des organes de proprioception pour se situer dans l'espace où on vit. On en a dans les articulations, mais il y en a aussi deux essentiels, les yeux et les oreilles, pour savoir où on est. Ce qui est bon, il se trouve qu'en ce moment, je travaille avec une apnéiste. Elle me dit, même quand je suis la tête en bas à moins 100 mètres, dans le noir, je ne sais plus où je suis. Bon, d'habitude, on sait où on est, on sait où on pose les pieds. Mmh. Mais il y a des gens pour qui il y a des déficits.
Oui, et il faut aussi expliquer que un grand nombre de chutes sont expliquées par justement un problème de vue ou d'audition.
Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que quand on vieillit, ben, on est plus à risque, forcément. Mmh. Forcément. Mais il y a des gens qui sont toujours tordus les chevilles et qui n'ont pas réussi à se rééquilibrer.
Qui c'est qui peut me donner un exemple de vous deux sur la proprioception, sur ce que c'est précisément ?
Non. La définition, vas-y Pascal.
Donc la proprioception, en fait, si on reprend une définition très, très synthétique, c'est ce qu'on appelle un système informatif qui finalement est constitué de mécanorécepteurs, c'est-à-dire d'un système qui permet la régulation de la posture et des mouvements, mais pas seulement. C'est aussi un moyen de contrôle et de mesure. Et moi, je me situe effectivement dans une démarche de prévention et d'augmenter notre capital santé pour une raison très simple, c'est que nous sommes soumis tous bipédiques sur. Nous sommes soumis aux contraintes de la verticalité et de l'aplomb. Donc, ça touche effectivement tous les êtres humains sur Terre.
Par opposition aux animaux qui se déplacent sur quatre pattes, souvent.
C'est ça. C'est plus facile. À l'horizontale, à quatre pattes, l'équilibre est plus facile, quand même.
Voilà ce que serait effectivement une définition de la proprioception, sachant que cette proprioception, c'est un système qui se lie, qui est connexe avec celui, effectivement, de la vision, celui du système informatif lié à l'oreille interne, mais aussi, et c'était un des axes de mon travail et de ma méthode, c'était lié aussi à l'attention, ce qu'on appelle l'attention vigilante.
Et l'attention, c'est toujours et tout le temps.
Exactement. Je vois que vous avez lu le livre.
Ah bah, écoutez, vous me faites le plaisir d'être là. J'essaye de lire votre livre. Mais oui, parce que souvent, les gens qui chutent parce qu'il y a un défaut d'attention à un moment donné.
Exactement. Alors ça, c'est un domaine très très spécifique hein, qu'on appelle... c'est une terminologie qui est fausse, qu'on appelle mindfulness. La pleine conscience, en réalité le travail sur la pleine conscience et sur l'attention vigilante remonte aux années 55 avec le docteur Ellis, qui est un des premiers à avoir travaillé vraiment dans ce domaine. Et parmi les plus connus, nous avons le professeur John Gabardine, nous avons Christophe André en France, qui a travaillé donc sur la pleine conscience et sur les méthodes de méditation. Et lorsque moi je me suis formé justement à cette approche bouddhiste au travers d'un institut qui s'appelle Vajrayana dans le Tarn, j'ai étudié justement le principe de l'attention vigilante, c'est-à-dire notre capacité que nous avons à avoir une attitude de présence et de conscience appliquée à un support particulier. Et donc en l'occurrence, lorsqu'on travaille ou lorsqu'on entraîne l'équilibre, on a besoin d'avoir fixer notre attention sur quelque chose de précis. Et il s'avère qu'avec l'âge, mais pas que, il y a bien une déficience à la fois de l'équilibre et de la proprioception et de l'attention vigilante.
Si on prend un exemple, quand on rate une marche, par exemple, c'est qu'on n'a pas été vigilant.
Ou
attentif, vous voyez.
Exactement. Alors, on dit souvent... Dans le langage commun, on dit « tu n'as pas fait attention ». En réalité, ça veut dire que notre attention était focalisée ou happée par autre chose. Porter un sac, porter un objet qu'il ne fallait pas casser en descendant les marches, prendre son portable et téléphoner en même temps, et qui fait qu'à un moment donné, effectivement, on va avoir une déficience d'information, on va se retrouver simplement donné par terre.
Oui, mais en même temps, je dirais, là, c'est effectivement, la cause, c'est un peu une manque de présence, hein, mais les organes de proprioception, ils sont là aussi pour réagir de façon autonome. Il y a un trou dans la route, le pied, peut-être il n'était pas visible, le trou, il y avait des choses dessus, la cheville se tord, et normalement, ça doit se rééquilibrer tout seul. Si tout est bien en place, on va rééquilibrer. Et il y a des gens qui, ben ça se produit pas, parce qu'il leur manque ces organes de proprioception.
Donc 95% des cas, on se rattrape.
Voilà.
Il y a un mécanisme de rééquilibrage qui se met en place, donc on se rattrape. Prenez aussi l'exemple d'un plateau. Alors, peut-être que ceux qui nous écoutent ont déjà porté un plateau de petit déjeuner, et subitement, ils sont focalisés sur ce qu'il y a sur le plateau, et puis il y a quelque chose qui bouge, et bim, le plateau tombe, et eux, ils tombent avec. Donc, en général, là aussi, vous avez une tentative pour vous rattraper, au final. Soit avec la main, soit avec...
Effectivement, la proprioception, on l'applique d'une manière globale à l'ensemble du corps. C'est une qualité fondatrice de notre corps humain. Ça inclut le sens de l'équilibre et de la verticalité dont je parlais tout à l'heure. Donc, on peut l'appeler simplement l'aplomb, le maintien de la verticalité de notre structure. Mais la proprioception, c'est effectivement appliqué à toutes les articulations, à tous les groupes musculaires, à tous les segments de notre corps.
Bien, allez, on parle de l'équilibre ce matin. Vous allez voir, c'est passionnant pour tous ceux qui ont toujours l'impression de se prendre des pieds dans le tapis jusqu'à 13h, ce Beurre FM.
AVS revient dans un instant.
Beurre FM, la rediff.
Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, nous parlons de l'équilibre ce matin avec le docteur Bernadette de Gasquet. Je rappelle que vous êtes médecin et professeur de yoga et vous êtes avec Pascal Floréac qui est coach et réparateur sportif. Et tous les deux, vous avez écrit ce livre sur l'équilibre, le livre de l'équilibre aux éditions du Rocher. On parlait tout à l'heure de la proprioception. Normalement, c'est un mécanisme donc qui est automatique. Finalement.
Oui, tu vois.
Mais est-ce qu'on peut agir dessus?
Voilà, ça peut se travailler et ça peut s'entretenir. Et en tout cas, moi, ce qui m'a intéressé dans le travail de Pascal, c'est que il propose des choses simples, avec des accessoires très quotidiens, des petits circuits. C'est assez ludique, c'est pas de la gym corrective ennuyeuse. Et c'est ça qui m'a plu et pour lequel j'ai accepté effectivement de collaborer à son livre. Mais c'est un peu sa méthode quand même.
Oui, enfin, vous avez accepté de collaborer, Bernadette, parce qu'il vous a laissé parler du Pyrénées.
Voilà, tout à fait.
C'est ça. À mon avis, la négociation devait se jouer à ce niveau-là. Quel est, tiens, justement, le rôle du Pyrénées dans l'équilibre?
Alors, parce que le Pyrénées, il faut déjà savoir un peu où ça se trouve, c'est tout à fait le fondement, c'est la partie la plus inférieure du tronc, du thorax, où il y a tous les viscères de l'élimination, hein, et moi je me sers tout le temps du Pyrénées pour la posture, pour mettre les gens debout d'aplomb à quatre pattes. On a un peu moins besoin d'avoir que tout soit fermé, mais quand on est debout verticalement, on a besoin de ce tonus, et en fait pour moi c'est la base de la posture, et c'est un peu ce que Pascal a trouvé en venant dans mes cours par rapport à tout ce qu'il faisait avant. C'est donc ce que peut ajouter le fait de placer son bassin à partir du périnée.
Il y a le périnée et la nuque.
Et voilà, le sommet de la tête, et le placement de la nuque, du regard, etc.
Qui d'entre vous définit ce que c'est que l'équilibre? Pascal, vous voulez vous risquer ?
Ah, allez, grand sujet. Alors l'équilibre, pour reprendre une définition très simple, c'est un ensemble de déséquilibres permanents. C'est-à-dire que notre verticalité tient au fait que nous sommes équipés d'un système autonome, qui est un système proprioceptif, en parallèle avec notre volonté, avec notre action volontaire de contrôle, que l'on peut appliquer ou pas. Et je rejoins donc cette définition que je donnais de l'attention vigilante, hein, c'est juste parce que nous faisons attention aux choses que nous pouvons éventuellement améliorer notre équilibre, mais heureusement nous avons un système autonome, proprioceptif, qui est vigilant par lui-même et qui ne passe pas par le contrôle du cerveau, donc l'information ne remonte pas au cerveau, c'est un système autonome qui passe par la moelle épinière uniquement. Et ce qui fait aussi la richesse de notre rencontre avec Bernadette, c'est le fait que nous sommes complétés dans notre vision. Nous avons une volonté éducative, nous avons une volonté de prévention, nous avons une volonté d'augmenter notre capital santé, et nous sommes réunis sur le fait qu'effectivement, autant les gens ne font pas attention à l'entraînement de leur proprioception, autant ils ne font pas attention non plus à leur respiration thoracique, à leur entraînement du périnée, à ce qu'on appelle l'autograndissement, c'est-à-dire tout ce qui est finalement le rapport entre la physiologie et le mouvement. Et donc, lorsque nous sommes rencontrés pour construire, finalement, à partir de mes écrits, pour construire notre manuscrit final, ce qui a donné le livre de l'équilibre, nous sommes vraiment rencontrés sur ces bases de ce qu'on va dire des associations fondamentales pour que le corps se porte mieux. Et je dis souvent, hein, ce n'est pas nécessaire d'attendre d'animal pour aller mieux.
Vous savez, l'équilibre, personne ne sait que ça existe jusqu'au jour où vous le perdez, où ça commence à tanguer autour de vous. Oui, parce que comme c'est naturel, au final, bon, vous vous dites, ça marche, et vous ne vous, vous posez pas la question de savoir comment ça marche. Hein, parce que dans votre livre, par exemple, vous prenez l'exemple de la position des pieds, mais personne ne se demande comment il positionne ses pieds quand il marche.
Ça, il faut mettre un pied devant l'autre, c'est bien connu.
Voilà, c'est ça. C'est, oui. Mais cette question ne se pose pas au quotidien. C'est le jour où ça commence à tanguer, où on commence à avoir des problèmes d'équilibre, qu'on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas.
Alors, les chiffres étaient suffisamment importants en termes de mortalité, en termes de chute, en termes d'hospitalisation et en termes de mortalité, vraiment pour les personnes de plus de 65 ans. Pour qu'en février 2022, donc, la ministre chargée de l'autonomie à l'époque, Brigitte Bourguignon, a œuvré en fait, hein, et s'est mis en quête de créer un plan d'action national contre les chutes et les seniors. Donc il a bien fallu attendre 2022 pour que ce soit une question qui attire l'attention des responsables pour partie de notre bonne santé. Donc vous voyez que finalement effectivement c'est une question qui intéresse à peu près tout le monde, y compris les gens au gouvernement, mais depuis peu.
Est-ce que ça veut dire que ce sens de l'équilibre que nous avons vieillit?
Ben dans la mesure où ça passe beaucoup par les yeux, les oreilles, donc c'est un peu une évidence, hein, je crois. Tout le monde en a fait l'expérience, déjà. Et puis, effectivement, au niveau du corps, ben, dès qu'il y a eu des blessures, dès qu'il y a eu des déséquilibres, justement, de longueur de latéralisation, etc., forcément, avec le temps, tout ça s'aggrave et prend de plus en plus de place par rapport à ce qui est normal, fonctionnel, etc. Donc, oui, si on a une hanche qui fait mal, on sait qu'on va se déséquilibrer de l'autre côté, et puis bon, voilà, un jour ou l'autre, ben, ça va pas passer la marche. Donc, le vieillissement de l'équilibre, comme celui de la mémoire, etc., c'est physiologique. Mais,
ou des sphincters.
Voilà. Mais on va vivre plus longtemps. Enfin, l'espérance de vie aujourd'hui est quand même très importante. On vit beaucoup plus vieux qu'il y a 100 ans. Donc il faut quand même essayer de sauvegarder tout ça pour qu'on vive mieux ces années-là, et puis aussi qu'il y ait un peu au niveau de la société, ben, qu'on coûte un peu moins cher, parce que toutes les prothèses, etc., ça coûte cher.
Vous, Pascal, vous avez coaché, par exemple, une personne qui avait du mal à monter l'escalier sans se tenir à la rampe.
Oui, tout à fait. Alors, ça fait partie, effectivement, des déficiences avec l'âge, avec le fait aussi que la personne en question avait un surpoids non négligeable, et donc c'était une entrave simplement à son équilibre. Et je rejoins aussi la démarche de Bernadette d'accompagner les femmes enceintes. Lorsqu'une femme enceinte prend 10, 15 kilos supplémentaires, il est évident que son système proprioceptif se modifie et que ça devient immédiatement plus compliqué. S'ajoutent à cela des modifications hormonales, donc les tissus deviennent pour certains plus mous, en tout cas pour partie les ligaments et les tendons.
Et les pieds.
Bon. Et les modifications au niveau des pieds, dont personne ne parle jamais.
Oui.
Ouais. Exactement. Notez que les pieds sont la partie la plus éloignée du corps de notre cerveau, donc à la limite, on ne s'en occupe pas pour ça, en fait, pour cette raison-là.
Mais les pieds servent à nous porter, finalement.
C'est même la base de notre corps. C'est
chez les bipèdes. Hein. Oui.
C'est le système de relation à notre terre.
Et quand on regarde la taille de nos pieds, par exemple, par rapport à notre taille ou à notre poids, ils ont du boulot. Hein.
Alors, je reviens pour finir justement ma réponse à votre question sur cette personne qui montait l'escalier, qui avait du mal effectivement à ne pas se tenir à la rampe de l'escalier. Il est clair que mon application et la méthode que j'ai mise en place, elle est destinée non seulement à des gens qui ont une perte de mobilité et d'équilibre, mais en même temps à toute personne finalement qui veut simplement maintenir sa capacité. Dans la mesure où nous sommes tous soumis à notre verticalité jusqu'à être définitivement à l'horizontale, il va falloir qu'effectivement ce système d'information soit entraîné au même titre que l'attention vigilante. Donc moi j'ai parmi les personnes que j'accompagne des profils complètement différents, des sportifs, des femmes enceintes, des seniors, des personnes atteintes de Parkinson, des maladies neurodégénératives, aussi bien que des personnes qui se réadaptent, par exemple des sportifs après une entorse ou une plus grave au niveau ligamentaire et musculaire. Et lorsque j'ai fouillé un petit peu la question au niveau national de l'équilibre et de son manque d'entraînement, pour vous donner un chiffre, c'est en 2022, il y a une enquête qui a été faite entre autres par l'INSEP, la direction des sports, qui notifiait qu'il y avait à peu près 4,5 millions de pratiquants qui avaient déclaré un accident de type entorse, luxation ou élongation uniquement pour le membre inférieur. Donc ça veut dire que en France, tous les ans, nous avons effectivement, pour le traduire un peu abruptement, un impact économique et financier qui est juste extraordinairement important, juste par cet impact des pratiques sportives. C'est 4,5 millions de personnes qui se blessent et donc qui entraînent derrière une chaîne de valeur, hein, c'est-à-dire la rééducation, les prothèses, la chirurgie, etc. C'est un coût non négligeable.
Et ces blessures sont dues donc à un manque, enfin à un déséquilibre momentané ou c'est une autre raison?
Alors ça peut être un déséquilibre momentané de par simplement le mouvement sportif. Ça peut être aussi le fait que jusqu'à présent l'entraînement de la proprioception est plutôt réservé aux sportifs de bon niveau ou de haut niveau et que j'ai pas trouvé beaucoup de personnes qui finalement avaient investi ce terrain-là de prévention autant que je l'ai fait, de la même manière que Bernadette en son temps, il y a 30 ans en arrière, ne trouvait personne en termes de rééducation ou d'éducation du périnée.
Bon, on parle de l'équilibre ce matin, ça passe vite. Vous publiez tous les deux le livre de l'équilibre aux éditions du Rocher, vous êtes nos invités jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant.
Beurre FM, la rediff.
midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, nous parlons ce matin de l'équilibre avec le docteur Bernadette de Gasquet qui est avec nous, avec Pascal Florac, coach et préparateur, réparateur sportif. Tous les deux, vous publiez le livre de l'équilibre aux éditions du Rocher. C'est un livre d'exercices, il y a 17 exercices. Il faut les faire dans l'ordre parce qu'il y a une progression en fonction du niveau. Donc vous allez voir, vous allez monter en niveau. Et Bernadette, vous le disiez tout à l'heure, mais il n'y a pas besoin d'énormément d'équipement pour les faire. Vous pouvez les faire à la maison. Et c'est combien de temps à consacrer par jour à peu près, Pascal?
Alors, ce qui est important en fait, c'est toujours de se rappeler que l'équilibre, comme l'attention vigilante, ce sont des, je vais appeler ça des compétences. C'est-à-dire qu'un peu à l'image d'un pianiste qui fait ses gammes tous les jours, en tout cas s'il veut progresser, il est nécessaire aussi d'avoir une récurrence dans la pratique de certains exercices simples. Et j'ai voulu que ce livre, justement, ce livre méthode, soit une progression qui soit facile à aborder, qui soit utilisable chez soi. On n'a pas besoin effectivement de matériel, si ce n'est un tapis, éventuellement un petit coup de fin.
Et une ceinture, peut-être.
Et une ceinture, effectivement. Vous parlez là de la ceinture vraiment de Bernadette de Gasquet, qu'elle a mis en place effectivement, ce qu'elle utilise dans ses pratiques. Donc ce qui est important, c'est simplement d'avoir un impact régulier, un impact positif régulier, donc journalier idéalement, de manière à ce que cette compétence à la fois s'établisse, que nous augmentions notre capacité réflexe de rééquilibrage, et qu'en même temps, effectivement, on renforce notre capacité à faire confiance au corps, à avoir cette agilité, cette habileté motrice que nous perdons au fur et à mesure du temps.
Bernadette ?
Oui, je pense que c'est toujours ça, c'est le côté quotidien, le côté régularité, c'est pas des heures de travail une fois par semaine ou autre, c'est vraiment l'appliquer dans son quotidien. Et bizarrement, enfin, je vais dire, bien sûr, c'est un travail sur la verticalité et sur les pieds, mais je peux entraîner mes pieds assis sur une chaise, travailler sur la voûte plantaire, etc. Enfin, on peut varier quand même les petits exercices. Et y rajouter de la respiration, de l'autograndissement. Ben voilà.
L'ennemi de l'équilibre, ce sont les talons hauts.
C'est un autre équilibre.
Non ou pas, non, parce qu'au contraire, on a l'impression que celles qui justement portent des talons au moins 10 cm, elles ont un bon sens de l'équilibre.
Disons que chaque fois qu'un homme essaye, il se sent très très mal, voilà, parce qu'il n'est pas habitué à ce type de. Mais c'est pas physiologique. Marcher sur la pointe des pieds n'est pas tout à fait physiologique quand même.
Oui, même au contraire, vous suggérez des chaussures qui soient beaucoup plus hautes sur le devant que sur le derrière.
Je dis que c'est une expérience, une expérimentation qui correspond à certaines statiques. Les gens qui sont avec les épaules très en arrière par rapport au bassin, si on leur fait soulever l'avant du pied, pour pas tomber en arrière, ils vont se repositionner. C'est plutôt toujours cet apprentissage de la proprioception. Voir que il suffit que je fasse ça et hop, je suis obligée de me rééquilibrer. C'est en ce sens que c'est intéressant. Je ne préconise pas de marcher tout le temps avec ça.
Avec les pieds en hors-bord.
Non, c'est ça.
Pascal, est-ce qu'il y a un exercice pour ceux qui nous écoutent ce matin pour qu'ils puissent évaluer leur sens de l'équilibre, savoir où ils en sont de leur équilibre?
Ah, ça c'est toujours la question piège.
Si vous voulez, j'en ai d'autres, si vous voulez. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour savoir si finalement on a un bon ou un mauvais équilibre?
Alors, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de monter sur pointe de pied en ayant simplement les pieds parallèles à peu près à largeur de hanche, voir si nous tenons effectivement simplement sur pointe de pied, et faire ensuite un exercice complémentaire, c'est monter sur talon, donc décoller l'avant des pieds. On voit souvent, d'ailleurs, de manière un peu réductrice, que l'équilibre, et ça rejoint l'image des femmes qui ont des talons de 10 cm de haut, le corps étant projeté un peu en avant, c'est toujours plus facile de rester sur pointe de pied que sur talon. Mais il faut rééquilibrer aussi les chaînes musculaires. Donc ça, c'est un premier exercice. Et le deuxième, puisque je vais bousculer un petit peu la question, je vais vous en donner un deuxième, c'est mettez les deux pieds en ligne, l'un derrière l'autre, comme si vous étiez sur une poutre de 10 cm de large. Et essayez simplement de ressentir comment votre corps va rétablir la verticalité. Et là, je rejoins une des conditions importantes de cet apprentissage de l'équilibre, c'est ce qu'on appelle l'autograndissement. C'est véritablement la posture qui se grandit vers le ciel et la manière dont le corps se tient dans cet aplomb entre les pieds et le sommet de la tête. Alors, si on voulait rajouter un degré supplémentaire de difficulté ou d'apprentissage, on pourrait tout à fait faire les deux mêmes exercices en ayant les yeux fermés.
Ça complique.
Oui, tout à fait. Alors, je revendique un tout petit peu à propos de la ceinture, puisqu'on a parlé, c'est pas une ceinture que j'ai inventée ou que je vends, mais c'est l'utilisation qui est intéressante. On a pu faire sur des enregistrements sur des plateformes de stabilométrie, ce qu'on utilise souvent hein, pour mesurer un peu comment c'est, si on marche sur le bord du pied, etc. Enfin, comment on marche et effectivement, sur les yeux fermés, les oscillations du corps, quand on a un centre qui est bien placé, c'est-à-dire quand on met cette ceinture qui aide à se placer au niveau du bassin, vraiment le centre du corps, immédiatement les oscillations sont beaucoup plus limitées et sont dans le sens antéro-postérieur et pas sur les côtés. Or, tomber sur le côté, c'est plus en avant, on se rattrape mieux que sur le côté. Hein. Donc c'est, voilà. Et donc c'est pour ça que la ceinture, c'est un peu pour marquer ce centre et aider à trouver ce centre. Et c'est évidemment dans cette zone-là qu'il y a le périnée. Et c'est en cela que le périnée va aussi rejaillir sur l'équilibre.
On va voir tout à l'heure un exercice pour les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson. Mais quand une personne âgée chute, ce dont elle a du mal, c'est à se relever. Et on n'apprend pas aux personnes âgées à se relever, finalement.
Je trouve que d'une manière générale, on n'apprend pas à s'asseoir, se relever, se retourner, s'allonger dans le lit. On utilise toujours les mêmes mouvements qui ne sont pas bons. On pousse sur le ventre, on se tire, etc. Bon, voilà. Et c'est vrai que c'est ce quotidien qu'il faut travailler. Et le jour où on est blessé, là, on s'aperçoit que, c'était pas ça qu'il fallait faire, quoi.
Comment vous travaillez, Pascal, par exemple, pour redonner confiance à une personne qui a chuté, qui est tombée et qui, finalement, serait craintive par la suite ?
Alors, très simplement, en restant dans la pratique qui est la mienne et dans celle de Bernadette, où j'évacue de fait ce qu'on appelle les vertiges positionnels de l'oreille interne, qui sont là liés directement à un ORL ou une pratique de rééducation kinesthésique vestibulaire. Donc je laisse ça de côté. Ce qui est vraiment une déficience des qualités de proprioception du corps, ce qui va être important, c'est à la fois de se dire que la personne peut être juste en perte d'équilibre parce qu'elle n'a pas fait attention. Donc ça peut être une déficience de l'attention vigilante. Ça peut être une déficience simplement de l'entraînement du corps parce que elle ne pratique pas d'activité corporelle et ou sportive. Ça peut être aussi une perte de force. Et ça, on voit que notablement, c'est quelque chose qui apparaît à partir, grosso modo, de l'âge de 50 ans. Il y a une véritable perte de force, en particulier du plan postérieur du corps, du périnée et de la ceinture abdominale profonde. Et que tout ça, en fait, va agir sur une chute, hein, typiquement. C'est-à-dire que ça va entraîner le corps en avant, déséquilibre, et la personne va se retrouver le nez par terre. Donc lorsqu'on veut retrouver cette confiance dont vous parliez tout à l'heure, et remettre la personne le mieux possible dans sa verticalité, il va falloir qu'elle prenne conscience que il va falloir gagner en force, en particulier sur les membres inférieurs et dans le dos. Il va falloir qu'elle reprenne conscience de son fondement dont parlait Bernadette tout à l'heure, qui est le périnée, qui porte véritablement la verticalité de la colonne vertébrale. Et il va falloir qu'ensuite elle entraîne sa proprioception spécifique des pieds, des genoux et des hanches, de manière à ce qu'il y ait une cartographie sensorielle qui soit nourrie, parce qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, le corps humain repose sur les pieds. C'est un constat, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais c'est important de le rappeler. Donc on va composer avec ces différents axes d'entraînement pour que la personne apprenne à se tenir verticale et ensuite à travailler avec ses verticalités, avec son aplomb, avec sa mobilité dans l'espace, et que finalement elle ne chute plus ou qu'elle chute beaucoup moins.
Et je dirais que pour se relever, puisque c'était le début de la question, il faut quand même avoir un peu de muscle dans les jambes. Et ça, on en manque parce qu'on est beaucoup trop assis et mal assis, et que finalement on n'est pas obligé de courir pour se remuscler les jambes. Voilà.
Oui, mais beaucoup de personnes restent allongées en attendant l'arrivée des secours, sans pouvoir se relever. Je voudrais qu'on termine avec un exercice. Vous avez mis au point des exercices pour les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson. Pascal, pourquoi dans la maladie de Parkinson l'équilibre est atteint?
Alors, pour faire simple, sans vouloir rentrer dans les détails de la pathologie neurodégénérative, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. C'est que l'information entre le neuromusculaire d'une part et l'activité réelle musculaire du corps va être réduite. On a une conduction nerveuse neuromusculaire qui va être réduite. Donc elle est moins efficace. Donc la personne, en fait, va se déplacer plus lentement. Et elle aura toujours tendance, en tout cas la personne atteinte de la maladie de Parkinson, elle aura tendance à traîner un peu des pieds, et donc à modifier le placement de son corps par rapport à sa verticalité idéale. Premier constat. Deuxième constat, c'est qu'il y a une perte de force, en particulier dans le plan postérieur, pour tous les muscles paravertébraux, donc ceux qui sont le long de la colonne vertébrale. Il va donc falloir agir sur un renforcement musculaire spécifique au plan postérieur et aux jambes. Et ensuite, il va falloir qu'elle appréhende la conduction de son information de manière un peu différente, puisque l'information, au sens neuromusculaire, elle est beaucoup plus lente. Donc il va falloir prendre ces paramètres, les traduire en situation pédagogique, et c'est ce que j'ai fait au travers de ce livre, c'est-à-dire petit à petit, pas à pas, de manière graduelle. Et typiquement pour une maladie donc atteinte de Parkinson, il va falloir retrouver une sorte de richesse d'informations. Il va falloir diversifier les situations pédagogiques, les exercices, de manière à ce que le corps retrouve cette autonomie par le fait d'augmenter simplement l'information. Pareil, je simplifie beaucoup, parce que c'est une question qui est vaste. Mais simple fait de sentir ses pieds, ça peut être en se massant les pieds avec une balle de tennis. On prend du temps tous les jours à se masser les pieds avec une balle de tennis, et en même temps à faire attention à notre verticalisation. Du coup, avoir une respiration qui est placée, avoir une contraction du périnée au bon moment, et avoir cet auto-grandissement dont parle Bernadette, effectivement, dans son approche méthodologique.
Bien. Pascal, on arrive à la fin de cette émission. C'est passionnant, l'équilibre. Je rappelle que vous publiez le livre de l'équilibre aux éditions du Rocher. Donc, on le disait, c'est un livre d'exercices. Il y a 17 exercices à suivre. C'est très facile à faire. C'est vous qui les faites, Pascal, d'ailleurs, les exercices. Bernadette en fait un peu moins dans ce livre-là. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur YouTube. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci Pascal d'avoir été avec nous par téléphone ce matin et passez une très belle journée. Santé sur BeurrefM.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli BeurrefM.
BeurrefM, la rediff.
19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour chers amis auditeurs, merci d'être avec nous. Vous le savez, c'est toujours un plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça peut que nous réjouir. Allez, c'est parti au sommaire de cette émission, chers amis auditeurs. Vous savez quoi? Nous allons aller direction dans le 78, Mantes-la-Jolie. Mantes-la-Jolie, où nous allons nous adresser, vous savez quoi, à une polémique qui ne cesse d'enfler sur le tarif, figurez-vous, de la cantine pour une fillette qui a subi du harcèlement. On va en parler, qui a dû même d'ailleurs changer d'école. On en parlera direction Mantes-la-Jolie avec deux invités dans une poignée de minutes, Lina et Sonia, qui seront avec nous. Ensuite, eh bien, voilà, du beau monde sur ce plateau. Katia Burrier, Gamal Abina, Bruno Pomard, Hassan Barek, tout ce beau monde, vous savez quoi, eh bien, se retrouve pour revenir sur le discours de Macron ce matin. Un peu plus d'une heure, je crois, on n'est pas loin de deux heures de discours sur l'Europe. Alors, que retenir de ce discours? Beaucoup parlent d'indifférence, beaucoup parlent d'un discours, évidemment, sans grand-chose, sans grande déclaration. Nous reviendrons sur ce discours. L'aide familiale qui commence à scandaliser, vous savez quoi, les Chibanis. Pourquoi? Parce que, tout simplement, figurez-vous qu'une loi a été votée, un peu en express, puisque désormais, il va falloir séjourner, non plus, entendez bien, on en parlera tout à l'heure, 9 mois jusqu'ici sur 12, eh bien, on passe à 6 pour en bénéficier. Oui, écoutez bien, si désormais vous avez décidé de partir au Maghreb ou en Afrique noire, ben, sachez qu'il va falloir, pour pas que ça saute, on en parlera tout à l'heure. Les présidentielles, sondage exclusif, oui, pour toute une série de personnalités, il y a Marine Le Pen, Philippe, Édouard Philippe, Bruno Attal, bref, Le Pen l'emporterait contre tout ce beau monde. Gabriel Attal, j'ai dit quoi, Bruno? Non, c'est pas la même personnalité. Plutôt Gabriel Attal. Ouais. Je sens que c'est la fatigue qui me gagne. Hein. Heureusement qu'il y a la série de ponts qui arrive. Hein. Donc, hein. Les auditeurs ont la parole 01 53 48 3000. Ouais, vous, vous le savez. Vous nous appelez, vous êtes de plus en plus nombreux. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et en toute liberté d'expression.
Les informés. Les informés. L'interview.
L'interview, c'est à la fois avec Sonia. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Et Lina, bonsoir Lina.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous tous, ici même, en direct. Vous êtes dans le 78. Dans le 78, justement, on va revenir longuement sur cette affaire qui a suscité notamment une pétition. Hein, mais on va en parler. Ça se passe à Mantes-la-Jolie. Alors, qui veut prendre la parole des deux, Sonia ou Lina, concernant cette mère de famille des Yvelines à Mantes-la-Jolie, qui a scolarisé donc sa fille, qui aurait été harcelée pour la mettre dans un établissement d'une commune voisine. Alors racontez-nous, parce que moi j'ai besoin de comprendre ce casse-tête pour cette fille qui a dû changer d'école en cours d'année pour des soupçons ou tout simplement du harcèlement scolaire. Qui veut prendre la parole, Lina ou Sonia?
Alors, je commence.
Qui c'est, Lina ou Sonia?
C'est Lina. Lina.
Lina, pardon, Lina, je vous écoute.
Alors, je suis membre associatif. La maman nous a contacté suite à l'harcèlement de sa fille qui a débuté très rapidement dans l'école qu'elle était à Buchelet. Donc, les faits ont été avérés aussi bien par la directrice de l'école, par le maire de Buchelet. On a été reçu très rapidement par l'inspectrice académique qui se trouve à Rosny-sur-Seine, qui a décidé de mettre en place très rapidement le protocole phare. Donc le protocole phare, vous savez, c'est ce qui est dédié aux enfants harcelés. Donc ils envoient des équipes sur l'école en question pour discuter avec les enfants sur l'harcèlement, oui. Pour mettre...
Elle est âgée de... Elle a quel âge, la fille?
10 ans.
10 ans.
C'est ça?
Au moment des faits, 9 ans. Ah,
c'est Sonia qui parle, là. Sonia.
Ouais, voilà.
Sonia.
Au moment des faits, elle a 9 ans.
Oui.
Et actuellement, elle a 10 ans.
Elle a 10 ans. Elle est toujours scolarisée dans la même école ou vous l'avez changée?
Justement. Le protocole phare, c'est un protocole très bien, mais comme tout protocole, il y a des inconvénients, c'est qu'il met énormément de temps à se mettre en place. Et la maman ne voulait pas, pour la sérénité, le bien-être de son enfant, ne voulait pas attendre la lenteur administrative qui aurait pris peut-être quelques mois, parce que sa fille souffrait. La fille, puisque la maman est à l'écoute de son enfant, a exprimé son souhait de changer d'école. Donc, nous avons à nouveau rencontré le maire de Buchelet, l'inspectrice et la directrice qui ont été unanimes sur cette décision en disant que oui, en effet, c'est le bien-être de l'enfant qui prévaut et que si l'enfant veut changer d'école, toutes les autorisations pour les dérogations seront délivrées.
Qu'est-ce qu'elle a subi qu'est-ce que vous dénoncez dans cet acharnement? Qu'est-ce qui s'est passé justement auprès de cette fille âgée aujourd'hui de 10 ans? Elle a subi quoi? Des crachats, des insultes? M'a-t-on rapporté des propos racistes? Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement?
Alors oui, ça a commencé, vous savez, au début, c'est la petite nouvelle dans l'école, donc on commence par des petits mots pas gentils, on va dire ça comme ça, on va pas les répéter en direct. Ensuite, il y a eu des agressions verbales de plus en plus fortes, comme vous dites, à connotation raciste, et c'est parti en crescendo, parce qu'il y a eu l'effet boule de neige, hein, vous savez, les enfants, très vite... Voilà, ils se sont regroupés contre contre cette jeune fille. Et il y a eu aussi des agressions physiques, où on lui tirait les cheveux, on lui fait des croche-pieds. Cet enfant, bon, la directrice, et au passage, je remercie vraiment le maire de Buchelet qui a été très réactif, très très réactif, et n'a pas laissé la situation justement s'empirer. Et c'est pour ça que très vite, il a accepté la dérogation de la jeune fille sur une autre école, dans une autre ville.
Alors justement, Sonia est avec nous. Sonia, vous êtes la maman. Dites-moi, Sonia, votre fille aujourd'hui, dans quel état elle se trouve lorsque vous échangez avec elle? Est-ce qu'elle, vous avez le sentiment qu'elle est traumatisée? Comment ça se passe pour elle aujourd'hui?
Alors, en toute honnêteté, au tout début, ça n'allait pas du tout. Ma fille, elle a... tenait des propos que je n'avais jamais entendus de ma fille, comme le suicide par exemple. Donc c'est là où j'ai tout de suite dit qu'il fallait stopper. Voilà, parce que ça reste un enfant de 9 ans. Elle ne comprenait pas. Moi, en tant que la maman, le papa, on est des personnes qui avons du caractère. Ma fille, pas du tout. C'est quelqu'un de très gentil, de très sensible. Donc j'ai eu la chance qu'elle parle, parce que j'ai très bien conscience qu'il y a des enfants qui ne parlent pas, qui subissent et qui ne parlent pas. Moi, j'ai eu la chance que ma fille me parle. Donc, elle m'a parlé, j'ai essayé de faire le nécessaire, mais ensuite, comme l'a très bien dit là, ma fille a
eu... Vous dites dans une déclaration, Sonia, vous dites dans une déclaration qu'elle a pris cher, votre fille. Qu'est-ce que vous entendez par prendre cher?
Moi, je vais vous dire les mots qu'elle a subis. Désolée si ça choque. Ma fille est métisse. Je suis blanche, le papa est noir, donc ma fille est métisse. On lui a dit qu'elle était sale, qu'elle s'était noyée dans la boue, qu'il fallait qu'elle se suicide parce qu'elle avait un teint dégueulasse. On lui a dit qu'elle était sale. Et après, de plus en plus, c'était un peu plus dur. Et puis ensuite, les violences physiques.
Oui, effectivement, c'est terrible pour vous, maman. J'imagine que... Elle est accompagnée aujourd'hui?
Oui, moi, je ne la lâche pas.
Elle est suivie par un psy? Non, accompagnée.
Elle a vu un psychologue et là, je suis en cours pour qu'elle, parce qu'il m'a conseillé qu'elle envoie encore 2-3 séances. Il trouve que ça va mieux. Maintenant, elle a retrouvé ses amis d'avant, elle a changé d'école. Il y a beaucoup d'adultes qui l'ont soutenue, qui lui ont dit que c'était une petite fille forte, courageuse.
Il y a Bruno Pomard, l'ancien membre du RAID, justement, qui souhaiterait vous interpeller. Bruno Pomard.
Oui, je suis très triste pour vous, chère madame. Est-ce que vous avez demandé des comptes à l'établissement, à la directrice ou au directeur de l'école, tout simplement, pour savoir un petit peu ce qui se passe dans cette école, éventuellement? Est-ce que c'est seulement votre fille qui a été insultée, menacée ou autre? Ou est-ce que c'est une ambiance générale qui règne dans cette école? Est-ce que le directeur ou la directrice de l'école vous ont au moins convoqué pour vous expliquer un petit peu ce qui se passait?
Sonia?
Alors, on a rencontré la directrice pas qu'une fois, donc avec la dame de l'association, 2-3 fois. Honnêtement, moi, j'ai trouvé qu'elle a réagi tout de suite. Je ne pense pas qu'il y avait un autre cas, parce que moi, ça a été dès la rentrée, comme c'était la nouvelle. Ma fille, le CP, CE1, CE2, elle était dans une autre école. Comme on a déménagé et que j'étais enceinte, je me suis dit, pour me faciliter, je la mets dans la ville où on vit. Donc ça a été la nouvelle, donc ça c'était tout de suite. Honnêtement, je sais pas si tu me rejoins là, mais j'ai l'impression, pour moi la directrice elle était un peu dépassée parce que c'était tout de suite, c'était nouveau.
C'est Lina qui parle.
Oui.
En fait, faut comprendre que la directrice a réagi très vite aussi, mais elle n'avait pas les moyens humains. Surtout, il faut se dire qu'en primaire, on ne s'attend pas à l'harcèlement aussi dur,
oui.
Parce que vous avez entendu des propos qui ont été tenus. Donc, elle a été démunie aussi, mais sincèrement, ils ont très rapidement mis en place une collégiale entre le maire de la ville, l'inspectrice académique et la directrice de l'école.
Katia Burrier. Katia Burrier qui souhaite aussi.
Parce que j'ai exactement vécu ce que vous avez vécu.
Qui est une élue.
Oui. Ma fille a été harcelée. Alors, c'était en 6e, elle avait 11-12 ans. Et exactement les mêmes choses, il y a 10 ans de ça. Donc, c'est pour vous dire que malheureusement, les choses n'évoluent pas. Enfin, pas assez vite, en tout cas, elles évoluent malgré tout. Parce qu'on voit que la directrice a réagi très rapidement dans votre cas. Moi, elle a mis du temps. Elle a réagi à partir du moment où j'ai demandé au maire de s'impliquer dans cette affaire, où j'ai fait des recommandés et que j'ai averti le rectorat. Sinon, rien ne se passait. La directrice demandait à ce que ce soit mon enfant qui change d'établissement. Donc là, on voit quand même qu'il y a eu quand même une avancée, même si c'est horrible. Et je comprends tout ce que vous me dites, parce que moi, ma fille aussi a voulu m'a parlé de suicide. Et ces enfants-là sont complètement anéantis. Et ça les marque très, très longtemps. Il faut vraiment la faire suivre. Moi, je l'ai fait suivre par un psy aussi. Et même encore aujourd'hui, il y a encore, malheureusement, encore des séquelles. C'est des enfants, soit qui deviennent... Enfin, il y a des enfants qui s'en sortent très bien, et heureusement, et dans la plupart des cas, mais il faut faire attention à ce qu'ils ne deviennent pas des victimes après dans le reste de leur vie. Il faut vraiment bien les faire suivre, et je vous comprends totalement dans tout ce que vous racontez, parce que ça me fait revivre ce que j'ai vécu il y a 10 ans.
Ouais. Sonia. Oui. Conseil précieux.
Ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, effectivement, ça avance, parce que si je me suis rapprochée de Lila, qui est là actuellement avec moi, c'est qu'elle, il y a 15 ans, sa fille aussi a été victime d'harcèlement pendant plusieurs années, et il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc effectivement, ça a évolué.
C'est vrai.
Mais bien sûr, il manque encore énormément de choses.
Ouais. Gamal Labina,
en fait, vous avez... Pomar qui vous a posé une question très précise, vous n'avez pas répondu réellement à sa question, donc je vais l'insister. Est-ce qu'il y a l'ambiance générale de l'établissement, parce que la référence c'est de savoir qu'il y a du racisme, c'est pour ça qu'elle a été harcelée, une nouvelle élève effectivement, propos racistes. Est-ce que la question de ces propos racistes a été étudiée? Est-ce que c'est réellement une intention de leur part ou simplement des bêtises? C'est la question qu'il vous a posée, vous n'avez pas répondu. Vous pouvez me dire si effectivement c'est le cas?
Alors, vous savez, ça reste des enfants.
Ouais.
La première réponse qu'on a eue, c'est que, et je pense que tous les parents ont cette réponse au début, c'est que c'est des chamailleries entre enfants. Sauf que quand on utilise des mots comme ça, c'est plus des chamailleries. Comme vous avez dit, il y a une élue qui a dit tout à l'heure, c'est vrai que ça a évolué, mais l'harcèlement est vécu de plus en plus jeune. Avant, c'était au collège, au lycée. Maintenant, c'est en primaire. Donc, il va falloir vraiment qu'ils mettent en place quelque chose de concret.
Attends, je vais répondre au monsieur. Je pense que je vais voir où il va en venir. Je vais essayer de vous répondre, moi, du mieux que je peux, avec ce que j'ai comme élément. Moi, quand ma fille elle me dit tout ça, moi-même, sans la directrice, je veux comprendre. C'est des enfants. Comment ils peuvent tenir de tels propos? Donc moi, à la sortie d'école, je veux voir quel enfant, je veux voir les parents. Donc j'ai été voir des parents. Et je vais être très honnête avec vous, sur une dizaine de parents, j'en ai 8 qui ont réagi extrêmement bien. Mais extrêmement bien, c'est-à-dire, c'est pas normal qu'ils grondent leur enfant, qu'ils demandent à leurs enfants de s'excuser auprès de mon enfant, et qu'ils demandent à leurs enfants de ne plus jamais réitérer tout cela. Mais j'en ai eu deux, monsieur.
Oui.
J'en ai eu deux qui m'ont dit, c'est pas possible. Ah, mes enfants ne disent pas ça. Ah, ma fille ne fait pas ça. Que voulez-vous faire après?
Dites-moi juste d'une phrase, parce qu'il faut que je lance la pause, ma chère Lina et Sonia. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, le Lina. Problème, il est autre. Puisque
on a quelques secondes, quelques secondes avant de lancer la pause.
C'est-à-dire qu'on a fini un problème, mais qu'on installe un autre problème.
Bah, je pense qu'on en parle après la pause.
Comment aujourd'hui?
Non, mais après la pause, on va passer à un autre sujet. Vous m'excuserez, mais dites-moi où vous en êtes précisément.
Je vous explique. Donc ma fille s'est harcelée, je dois changer d'école, je vais dans une autre ville. Accepté. Ok. Le maire de cette ville, donc le maire de Mantes-la-Jolie, me dit textuellement que je dois payer 10,90 €. Je lui explique que ce n'est pas de mon bon vouloir que ma fille a changé d'école, c'est parce qu'elle s'est fait harceler. Il m'explique que elle avait qu'à pas changer d'école, donc c'est soit elle paye 10,90 € par jour. Je lui explique que l'année prochaine, j'aurai mon fils qui sera aussi dans la même ville pour le suivi de fratrie. Il m'explique que ça sera 22 € par jour. Ce que je veux dire, c'est qu'une maman qui n'a pas les moyens, même vous, comme moi ou comme une autre, parce qu'on a eu énormément de témoignages après la pétition. Donc la solution du maire de Mantes-la-Jolie, il en a trois. La première, c'est soit elle paye donc 10,90 € fois le nombre d'enfants par jour. La deuxième, c'est que la ville dans laquelle elle vit paye la différence au maire de Mantes-la-Jolie. Ou la troisième, tout simplement, que les parents remettent leur enfant dans l'école où ils se sont fait harceler. Et je trouve les trois réponses inadmissibles.
Ouais, effectivement. Donc vous avez lancé, vous avez décidé. Non mais c'est clair, là, effectivement, là, l'évidence. Vous avez décidé de lancer une pétition.
Oui, voilà pour demander un tarif intramuraux pour tous les enfants qui sont harcelés.
Et vous avez bien raison. La pétition, la trouve vous précisément, Katia?
Non, je disais, elle a vraiment raison.
Et alors, pour celles et ceux qui veulent signer, vous accompagner et vous soutenir, comme dit Katia Burier, la pétition se trouve vous précisément?
Alors, nous l'avons mis en ligne sur les réseaux et sur les réseaux Facebook, TikTok, Insta.
Ça s'appelle comment?
La pétition.
Tu l'as,
Sonia, la pétition?
Oui, la
Allons-y. La pétition.
La pétition, elle est sur quel site elle est sur...
Leslinesbougent.org.
Alors, la pétition,
voilà. Leslinesbougent.org. Voilà, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Leslinesbougent.org. Merci en tout cas, mesdames. Leslinesbougent.org, si vous voulez donc soutenir, c'est cette maman, Sonia, la maman et sa fille, et puis Lina. Merci Lina, merci Sonia, bon courage à vous.
Merci à vous.
Tenez-nous au courant surtout.
Très bien, merci.
Merci à vous surtout, voilà. Effectivement, tous celles et ceux. Histoire terrible, hein, terrible. Hein, terrible.
Ça montre à quel point on a encore du travail à faire.
On a encore du travail à faire, effectivement. Merci, allez la soutenir sur les lignes. Vous tapez leslinesbougent.org. Évidemment, ils ont besoin de soutien. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous et on entame les débats. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant.
Beurre FM, la rediff.
19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Allez, c'est parti, 19h-22, le face-à-face, on lance.
Les informés, le face-à-face.
Femme qui est sur la seule femme d'ailleurs autour de ce plateau, c'est Katia Burier, élue à Saint-Maurice.
Oui.
Bonsoir ma chère Katia, comment
bonsoir,
ça va?
Bonsoir, bah, très très bien.
Tout va bien?
Bah oui.
À vos côtés, c'est Gamal Abina, le porte-parole du mouvement MDC. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir, moins bronzé que, hein, je vous rappelle.
C'est blague, mais bon.
C'est ça. Il y a de la couleur.
L'ancien membre du RAID.
Pas de discrimination.
Aujourd'hui, le président fondateur de RAID Aventure. Bonjour.
Bonsoir mon cher Adil et bonsoir.
Comment ça va, Bruno Pommard?
Super, un grade de forme, prêt à affronter nos amis. Hein.
Acteur associatif et aussi président de plusieurs associations.
Oh, c'est une belle marque.
Ah, c'est une belle marque.
C'est plutôt présent, c'est bon.
Pourquoi? C'est bien, il présente tout seul.
Ouais. Il n'a pas l'air en forme, j'ai l'impression, depuis tout à l'heure.
Il a chopé le Covid il y a trois semaines.
Donc c'est belle marque.
Il a chopé le Covid il y a trois semaines.
Ah merde, ah oui, d'accord.
Ah, bon, il va quand même
je dis, je ne trouvais pas en forme, c'est pour ça depuis tout à l'heure. Eh, mais non, mais attends, t'as vu ce qu'il vient de faire comme remarque? C'est Hassan Ben Barak.
Ben Barak. Ça rigole, ben. Fils de Barak.
Ben Barak.
Il va casser la barre.
Allez, on va revenir sur le discours longuement, ce long discours concernant donc. Qu'est-ce qu'il faut retenir, les amis? Qui veut prendre la parole? Bruno Pommard. Qu'est-ce qu'on retient? Mais surtout, s'il était en campagne, c'est loupé.
Que l'Europe va mourir, c'est tout ce qu'on a retenu. Après, bon, il a beaucoup philosophé, c'est sûr, il parle bien, mais dans le contenu, il n'y a pas grand-chose. Alors, on sait que les Européennes sont proches, que le parti a besoin de gagner quelques points parce qu'on est un peu loin de Glucksmann encore. Glucksmann n'est pas loin de nous, mais le RN est à 32%.
Oui,
donc, il est obligé de monter au créneau comme il l'a fait. Enfin, encore une fois, c'est un discours un petit peu, je dirais, hors sol. On sait très bien que l'Europe va mal.
On aurait besoin d'une Europe militaire, militarisée,
alors,
forte, mais ce n'est pas le cas.
C'est allé longuement sur des sujets à la fois numériques, à la fois sociales, à la fois économiques, à la fois la Russie, à la fois l'Ukraine, à la fois un petit peu...
Il essaie de faire peur aux Français et de dire allez voter.
Bien, mais...
Oui, mais on sait qu'il y a beaucoup d'abstention.
S'il était en campagne, est-ce que c'est réussi?
Moi, je ne crois pas. Très sincèrement, non, je ne crois pas. Parce que, de toute manière, les Européennes n'intéressent personne. Les gens ont envie de bouffer, d'avoir de quoi manger à la fin du mois, pouvoir payer leurs factures. Qu'on nous parle de l'intelligence artificielle et toutes ces conneries, franchement, nos sujets.
Katia, Laurier?
Bon, c'est 1h45, c'est vrai que c'est un petit peu long. Je pense que la plupart des gens ont peut-être décroché entre-temps, et c'est un peu dommage. Il a essayé de faire un tour d'horizon de tous les sujets qui concernent l'Europe. En même temps, on peut pas lui reprocher d'être trop à fond dans les sujets, parce qu'on va lui dire sinon qu'il est en campagne, et on va le décompter.
Non, mais il n'y a pas de nouveauté.
Ah non, non,
pas
c'est général.
Et on lui reproche, c'était trop général. Trop techno.
Et après, s'il est...
Trop techno. Alors,